Okay, est-ce qu'on est prêt pour un message? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut pas dire plus, mais on peut dire est-ce qu'on est prêt pour plus de Dieu? Oui, on va glorifier Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour Pasteur Didier. Merci pour le message d'encouragement, la parole de la grâce, Seigneur, qui est dans nos vies. Merci pour les paroles qui sont cachées dans nos cœurs. On te loue, on te glorifie, Seigneur. Sois béni et glorifié dans cette assemblée. On veut voir ton cœur, Seigneur. On veut voir toi, Seigneur. Sois béni. Conduis cette message pour ta gloire maintenant. Et touche nos cœurs. Pas bénédiction, mais visitation, changement, transformation dans nos vies, Seigneur. Merci. Amen. Wow. On va parler ce matin du nouveau de David. L'événement que Pasteur Didier a parlé de hier. Je pense qu'on est tous dans la même ville, donc on a vu l'orage qui a passé avec la pluie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tropique. C'est plutôt une pluie tropique avec la pluie comme ça. C'est pas vertical, c'était comme ça. Donc c'était passé comme ça et on a sorti pour chercher Pasteur Didi parce qu'il était à la frontière à Moetzela. En fait, 2 minutes après l'entrée dans la voiture, pouf, pluie partout. Et Priscille avec les enfants sont abris, sont cachés dans la voiture d'Elmer parce que, heureusement, on a choisi de faire l'évangélisation avec les voitures et de placer un peu plus loin. Donc, imagine ça, Elmer dans sa voiture, Priscille est en train de courir de entrer avec les enfants. Ouh, pluie comme ça, vent comme ça, on arrive ici. On n'est pas entré dans l'église, on a nagé comme ça pour arriver. Helmut, il a laissé ses chaussures dans la voiture. Et certains de nous, on a juste enlevé nos chaussures, on restait dans l'église. On peut pas sortir. Donc, c'était pas évangélisation. Ah, oui, c'est quelques minutes d'évangélisation. Mais plutôt, c'est comme ça, et on arrive ici, et on a parlé. On a donné une question-réponse et on a partagé un peu plus. Donc, magnifique, mais un peu bizarre avec le temps. Voilà, on est des plans, mais finalement, c'est les préparations, c'est de Dieu. On est dans le plan et on fait des choses et Dieu, voilà, il intervient comme ça. OK, on a passé un super temps hier aussi le matin avec un temps des hommes. Et on a parlé de David. Donc, pour ceux qui étaient là pour le matin, l'après-midi, et maintenant, wow, c'est un overload, on peut dire, de David. Donc, mais c'est bien, on doit écouter plus. Donc, David, un homme après le cœur de Dieu. Actes chapitre 13, verset 22. Oh, Seigneur, conduis cette parole dans ton bon nom. Merci. Amen. Actes chapitre 13, versets 21 et 22. Donc le contexte, Paul en train de parler, il introduit certaines choses, aspects de l'histoire d'Israël. Et le verset précédent, il parle de Saul, le premier roi. Et maintenant 21-22, il parle maintenant de David. Donc, premièrement ici, le peuple a demandé un roi, c'était Saul. Mais après, parce qu'il n'était pas obéissant avec Dieu, Dieu a dit non. C'est fini pour toi. Tu ne peux pas hériter, tu ne peux pas avoir une maison, une famille qui va continuer dans le royaume. Donc, on levait, et verset 22, « Puis, l'avons rejeté, le suscité pour toi, roi David, » auquel il a rendu ce témoignage. Donc c'est Dieu ici en train de parler, utilise les lèvres de Paul. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, merci. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et la fin de ça, verset 36, je pense que c'est 36, il dit, il accomplit toute ma volonté dans sa génération. Toute la volonté de Dieu par David, un berger. Simple, humble, pas compliqué, juste un homme. Et donc, verset 14 de 1 Samuel 13 parle de la même chose. C'était un avertissement pour Saul. Tu as pas encore après Dieu, Saul. C'était Samuel en train de dire ça. Et le Seigneur, il va choisir un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu en as pas observé ce que l'Éternel l'avait commandé. Donc, finalement, Dieu a dit, Saul, tu as été privilégié d'être le roi, mais tu as pas m'obéi. Il y a des conséquences pour ça. Et maintenant, je cherche pour quelqu'un d'autre. Et hier, on a parlé de David. Et on a parlé de la vie de David. Je propose pas de mettre le papier avec tous les explications, les images, etc. Mais la vie de David est comme un arbre, simplement ça. Compliqué parce qu'il a beaucoup de saisons et changements dans sa vie. Mais finalement, comme on a dit dimanche passé, on a cité le verset Psaume 52, verset 8. Je suis comme un olivier vert.
Dans la maison de Dieu,
parce qu'il a les racines profondes avec Dieu. Sa vie n'est pas dans les choses qu'il a fait. Sa vie n'est pas dans les relations qu'il a. C'est pas dans sa position. Sa vie est en relation avec Dieu lui-même. Et donc, quand il a passé par sept ou huit, je pense, changements dans sa vie, il était toujours proche de Dieu. Donc, on va parler ce matin, et je pense que c'est important pour nous tous. Mais hier, on a dit que c'est important pour les hommes parce qu'on est dans une société qu'on est en confusion. Et le diable, et lui, c'est lui qui amène la confusion et c'est Dieu qui amène la simplicité dans nos vies. Donc, la confusion. Je suis un homme, mais quelle est mon identité? On parle pas de la politique ou les choses qui passent en Suisse, on parle de simplement ça. On est dans une société que l'homme et les femmes ne connaissent pas ses places. On est en confusion. On essaie de faire quelque chose pour être d'avoir une valeur. Et David, et la chose importante de sa vie, il a trouvé qu'il était un homme après Dieu. Il a trouvé que, en fait, il n'a pas cherché pour une identité. Il a déjà une identité en Dieu lui-même. Et c'est le même pour chacun de nous. Si on est jeune, on a besoin d'une identité. Quand on est plus âgé, on a besoin d'identité. Quand on est vieux, on a besoin d'identité. On a besoin d'être toujours rassuré par Dieu. Quelle est mon identité? Et donc, l'identité s'était racinée en Christ comme un arbre, invisible et caché. On peut voir les branches, on peut voir les feuilles, mais on peut pas voir les racines. Et la vie d'un croyant, une grande partie de nos vies, c'est pas ici. C'est seul, chez nous, en prière, dans la parole, peut-être seul, en train de méditer, de penser. Et laisse le temps pour Dieu de faire ça. Je vais juste ajouter ça avant qu'on commence. On a un grand problème dans cette société. On est absorbé par beaucoup de choses. Et je parle pour moi-même aussi. Il faut regarder les nouvelles. Qu'est-ce que se passe en Angleterre avec le Brexit? Qu'est-ce que se passe ici en Suisse? Qu'est-ce que se passe en la Russie et en Chine? Et c'est intéressant d'être informé. Mais plus de ça, d'être plus... Est-ce que je peux prendre mon téléphone? C'est dans ma sac, pardon. Pardon, il faut que je prenne un appel. Est-ce que ça c'est clair? Je pense que c'est une illustration. Pas être accroché à ça. Être informé, oui. Mais ça, c'est pas notre Dieu. Être proche avec lui, prendre le temps avec lui, écouter quand il parle. Si je parle avec ma femme, on prend le temps de discuter face à face, n'est-ce pas? On discute. Tu as brûlé les œufs de nouveau. Pourquoi que tu fais ça? Non, je rigole. On parle face à face, on prend le temps, on prend l'espace. Ça, c'est une relation. Si ça, c'est entre moi et ma femme, si c'est probablement entre vous et vos proches, pourquoi que c'est pas le même avec Dieu? Pourquoi on peut pas arrêter et sachez qu'il est Dieu dans nos vies? Les moments d'adoration, sentir, être connecté, ça c'est la clé de nos vies. Il n'y a pas de magie ici. Il n'y a pas la magie, c'est pas un discours. C'est on cherche Dieu ici. On n'est pas intéressé avec les autres choses. Le café, si je suis là pour le café, je suis désolé. Ce matin, le pari de café, c'est mort. Ah non, ça marche, super, amen, donc ressuscité. Quand j'ai vu, c'était comme ça. Voilà, on est là pour Dieu. Et maintenant, je vais attaquer le message pour être en bref. David, dans sa vie, 30 ans quand il a pris le royaume, il était roi, ou donné quand il était probablement 17 ans, 13 ans en exil, peut-être 10, 13 en exil, avec Saul dans le palais, et Saul, jaloux, essaie de tuer. Donc sortir en exil, exil avec 600 hommes. Si j'ai des problèmes, imagine que je suis le leader de 600 personnes avec 600 problèmes. Il a besoin de Dieu. Parce que ces gens sont les gens troublés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus à la caverne Adullam pour être avec David. Donc, David doit être vraiment accroché à Dieu. C'est pas un film Hollywood. C'est vraiment le moment difficile dans sa vie. Donc, le clé de sa vie, premièrement, il a aimé Dieu. Dieu n'est pas un idole pour lui. Dieu n'est pas une image. Dieu n'est pas une idée. Dieu est une personne. Et pour David, il a aimé Dieu. Et on peut voir ça. Psaume 23, verset 6. Oui, que le bonheur et la grâce, ici c'est le mot grâce, hesed, c'est miséricorde en fait, m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aime Dieu. Je vais être proche de Dieu. Si un homme aime une femme, il veut être avec elle, n'est-ce pas? Si un homme est en train de, fréquenter, de commencer une relation pour être marié, il passe le temps de discuter. Et donc, Dieu avec nous, on est un Dieu qui est notre Dieu. Il nous aime et on aime lui, donc on voudrait passer le temps avec lui. Est-ce que je donne ma femme, ok, j'utilise ma femme, je suis décelé, est-ce que je donne juste l'information? Voilà, ça c'est moi, il faut faire ça aujourd'hui, bla 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 bla. Est-ce qu'on peut acheter les oignons? Est-ce qu'on peut faire... Non, oui, c'est vrai, on transmet l'information. Il faut garer la voiture là, il faut faire ça. Mais c'est une relation avec un échange. Et qu'est-ce que David a fait? Il a arrêté, il a sachi qu'il est Dieu. Il a dit, pas besoin de conversation, besoin de présence. Ça, c'est la chose qui change nos vies. Ça, c'est la chose qui peut changer les blessures dans nos âmes. La présence de le Seigneur Jésus-Christ avec nous pour l'éternité, parce qu'on va vivre avec lui pour l'éternité. Et donc, maintenant, c'est le moment d'être, commencer à être prêt. Si on est en train de préparer pour quelque chose, si Diego fait un examen, dans sa profession, il faut qu'il prépare pour ça, n'est-ce pas? Pour nous, c'est le même. On est en train de préparer pour vivre avec Dieu. Logique, n'est-ce pas? De comprendre son cœur, logique aussi de sa parole, comment il pense, comment les choses il aime, les choses il déteste. Donc, sa présence avec lui pour éternité. Merci Seigneur, on est ta présence pour éternité. Point numéro 2. Il a cherché le refuge en Dieu. En fuit, on a parlé de ça, n'est-ce pas, récemment, d'être en train de courir et quelque chose est là et je déteste, ou une tentation, et il faut que je coure dans cette direction pour poursuivre quelque chose. Et lui, il est caché dans les cavernes. Il était caché en Israël, probablement proche de le désert de Juda, probablement proche de Engedi et la mer morte. Si vous avez été là, c'est un peu... Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas un endroit habitable, si on va aller là-bas. Sec, scorpion, je pense qu'il est des scorpions, des insectes, des choses là-bas. On était là après le soleil couché, après sortie de Engedi. Et on a passé un super temps là-bas, jusqu'au moment où le soleil commence à coucher. On ne peut pas trouver notre bus pour retourner à Jérusalem. Donc, entre son marché dans une route, de voir le soleil commencer à coucher, les lumières de Jourdain dans cette direction, Israël dans cette direction, la direction occupée par Palestine, et ici en Israël avec les... Voilà, pas beaucoup de choses en fait. Imagine David là-bas. Combien de jours dans une caverne? Combien de jours il a se levé et a pensé, même vous, rien passe ici, j'étais oint par un prophète, Samuel, quand j'étais jeune. Et maintenant, qu'est-ce que se passe? Ma vie. Peut-être il pose des questions comme ça dans un désert, n'est-ce pas? Est-ce qu'on pose des questions comme ça des fois? J'ai vécu une vie glorieuse quand j'étais plus jeune. Ah oui, j'étais sauvé dans cette époque. Oui, j'ai vécu des choses. Et maintenant? Mais David, il a cherché la présence de Dieu. Il était caché, pas caché juste, caché d'un ennemi, caché sous les ailes de Dieu. Comme sur ça, comme un poulet avec les poussins. Oui, comme ça. Avec les poussins. Tu vois les poussins, ils sont cachés là avec le maman, là, comme ça. Et Dieu est comme ça avec nous. Il demande qu'on peut être accroché à lui. Donc cherche le refuge. Psaume 61. Oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentive à ma prière. Debout de la terre. Debout de la terre, il est loin. Je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne peux plus attendre. Je ne peux pas monter. Mais Dieu, il doit m'amener dans une place sûre. Voilà. Donc, je prends une position. C'est la position de l'œuvre accomplie. J'ai une position de perspective ici. C'est comme le salève. On a une vision globale d'ici. Dans nos vies, c'est le même, absorbé par les problèmes. Saul en train de chercher tout David ici, en train de faire ça avec son armée. Et qu'est-ce que se passe? David, il a dit, je vais rester avec toi, Seigneur. Protège-moi, couvre-moi. Donc, il n'est pas juste dans une caverne protégée. Il était protégé par Dieu. Et nous aussi, on peut avoir des faux couvertures. On peut penser, oui, j'ai l'argent, j'ai ma santé, je touche Seigneur, je suis protégé. Et le Seigneur dit, écoute, je suis le seul couverture pour toi. Je suis le seul refuge. On peut avoir un refuge en Jésus-Christ. Il est notre vrai refuge, comme David aussi a trouvé. Donc, refuge en Dieu et refuge paix. Combien de gens cherchent pour une bonne nuit de sommeil? Je sais, des fois, on est un peu dérangé par les chiens ou un chat ou peut-être des motos, je ne sais pas. Ça dépend où on habite. Mais normalement, on n'est pas les consciences pénibles, n'est-ce pas? Notre conscience lavée par le sang de Jésus-Christ, on n'est pas coupable. On peut vivre tranquillement. Donc, David en train de chercher et rester dans un refuge avec Dieu. Notre Dieu est notre refuge. Refugié sur lui. Ici, caché. Comme ça, on est protégé. On est couru d'entrer dans l'église hier avec la pluie. on était réfugiés, I suppose. On est réfugiés, on est cachés, on est protégés. C'est le même avec lui dans les orages de la vie. On a cherché refuge en lui. Adorateur. Troisième point, adorateur de Dieu. On est appelé d'être adorateur. Jean chapitre 4, Jésus a dit, le Père cherche pour des adorateurs qui va adorer la vraie adoration en esprit et en vérité. Il cherche ça. Il cherche pas qu'on est doué, fort, beau ou belle. Il cherche pas que nous avons un grand intellect. Il cherche les gens qui cherchent à lui, qui s'y disent, Seigneur, j'ai pas grand chose, mais j'ai toi. Et on est gagnant quand on est dans cette position. Adorateur. Je sais que je suis pas le meilleur chanteur du monde. Et je peux montrer ça, mais pas aujourd'hui, parce que je sais que ça va être des problèmes. Mais je sais que j'ai un grand Dieu et je peux adorer Dieu. Honnêtement, on peut faire ça. Adoration, c'est pas juste le chant de chanter. Et chanter, c'est super. On a une très bonne adoration ce matin, n'est-ce pas? Une très bonne adoration. Mais c'était un cœur de l'adorateur. Pas juste l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est ici, dans notre esprit, qu'on adore Dieu. Et les adorations sont différentes. Mais une étude de la parole de Dieu est adoration, n'est-ce pas? Honorer Dieu. Prier, ça c'est adoration. Servir quelqu'un, ça c'est adoration. Parce que je sers avec un cœur de serviteur. Adorateur. Je loue l'Éternel de tout mon cœur. David, entre tout mon cœur, il a dit. Intéressant. Je suis dans deux divisions. Ici, je suis dans le monde. Je suis un croyant. Ah, j'aime le monde. J'aime les choses ici. Wow, super. Je peux aller faire ça, faire ça. Et ici, je suis dans l'église ou je suis une partie de ma vie. C'est une division. Je suis divisé en deux parties. Et Dieu a dit, c'est jamais comme ça. Il faut avoir un cœur totalement consacré pour lui. Est-ce que c'est facile? Je sais, c'est pas facile. On est une chair, on est une ancienne nature pécheresse, on est faible aussi des fois, on est fatigué, on a besoin de dormir, on a besoin de manger. Mais d'avoir un cœur après lui, de dire, OK Seigneur, transforme ma vie, que je peux avoir un cœur totalement consacré pour toi. Adorateur de Dieu. J'aime la parole de Dieu. On a déjà parlé de ça, la parole de Dieu. David, il a écrit 75 psaumes. 75. Un homme qui était soldat, un guerrier, roi, berger, psalmiste, il a joué l'harpe. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais il a vraiment le raciné avec Dieu. Et quand il a écrit les psaumes, on peut voir le cœur. C'est bien de lire 1 Samuel et 2 Samuel et 1 roi. C'est bien. On a un livre historique ici. Mais de lire les psaumes montre le cœur de David. Quand il crie, quand il est blessé, quand il est déçu, quand les choses sont passées. Il est un homme spirituel, mais un homme qui a exprimé son cœur de frustration de temps en temps, de adoration, de joie. Donc c'est une diversité dans les psaumes, de toutes les choses. Et on peut apprendre beaucoup de ça. C'est pas la super spiritualité. On peut crier, Seigneur, au secours, j'en ai marre. On peut exprimer nos cœurs devant lui. Et il a fait ça dans les psaumes. Donc il a aimé la parole, il a exprimé la parole, il a lu la parole, il a médité. Psaume 16, il a médité dans son lit, son cœur a instruit. Il est instruit par son cœur. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est en fait formé dans la doctrine, dans son cœur, sous le lit. Ça passe des fois comme ça. On a une parole dans nos cœurs, nos pensées, on commence à méditer. Peut-être 2 heures le matin, on se lève et dit, Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette verset dans ma tête où ça commence à sauter. Méditation, et il a aimé la parole. Il a médité sur la parole, et la parole a transformé sa vie. Il a la doctrine, il a du bon dans sa vie, il a des convictions qui viennent de ça. Il a une vie, et c'est une vie qui instruit les autres. Donc voilà, il a aimé la parole de Dieu. Il a un cœur de serviteur, toujours un cœur de serviteur. Il a fait un vœu. Il a honoré Samuel. Non, pardon. Il a honoré Saul et il a honoré Jonathan. De garder un fils, de garder une descendance après Saul est mort. Normalement, il a le droit de tuer tous les autres descendants de l'ancienne dynastie. Ça, c'est le cas en Israël. C'est le cas dans les autres royaumes aussi. Mais la chose ici, il a laissé Mephibosheth être vivant. Ça, c'est d'honorer Jonathan et d'honorer Saul. Mais plus de ça, il a fait plus de ça. Il a donné le droit à Mephibosheth de rester à Jérusalem, de manger à la table de loi comme un fils de roi. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la miséricorde. Ça, c'est pas juste une obligation à accompli. C'est vraiment un cœur. Il a un cœur de servir. Il servit ses parents quand il est en train de en exil. Amené dans le royaume de Moab, d'être protégé parce que ses parents sont plus âgés. Il peut pas vivre la vie que David va vivre. Il a servi tous. Il a servi Saul en train d'essayer de tuer David. Il est toujours là. Il a dit, je suis ton servant. Pourquoi que tu me chasses? Il a parlé avec Dieu. Je suis ton servant, Seigneur. Et Dieu lui-même a dit, tu es mon serviteur. Donc Dieu lui-même, il a dit, tu es là pour me servir. Et la réalité, on a montré ça hier. On est tous appelés de servir les autres. Et dans cette société, dans ce monde, dans cette idée, le chef est la tête. Et tout le peuple sont en bas. Et donc, il a l'impression. Je dis quelque chose et Diego doit faire. Par exemple, c'est pas le cas, mais imagine ça. Je dis, Diego, il faut qu'on fasse ça et Robert, on va faire ça. Et ça, c'est de commander ici avec le chef de la tête en haut et tous les autres pressés comme ça. Mais avec Dieu, c'est l'autre. C'est en bas. Le leader est en bas, comme ça. Dieu est en bas ici et lui il sert et on peut voir ça avec Jésus quand il a lavé les pieds des disciples. Il est en train de servir et il est en bas, il a un cœur doux, il a un cœur humble, il aime de servir. Et donc il montre tous les autres comme ils sont plus importants. Ça c'est le cœur de Dieu, ça c'est comment Dieu organise son royaume, sa royaume. Ça, c'est comment une église doit fonctionner. Le pasteur doit servir l'assemblée. Les anciens doivent servir l'assemblée. Tous les autres, chacun de nous, on sert les autres. Donc, David était comme ça. Pas un roi distant, mais un roi proche de le peuple, qui aime le peuple. Un serviteur de Dieu. Miséricorde, 52 fois dans les psaumes, écrit par David, nous avons le mot hesed. Le mot hesed est le mot miséricorde. Aussi la grâce. Mais l'idée est la même. Il était quelqu'un qui a donné. Il a servi et il a aimé. C'était pas une obligation. Il a servi avec miséricorde. Il a pensé avec miséricorde. Et parce qu'il était comme ça, c'est Dieu lui-même en Ésaïe chapitre 55 qui a dit les miséricordes sûres de David. Donc il a mis dans le verset inspiré par Dieu, écrit par Ésaïe, miséricorde attribuée à David. Donc c'était une caractéristique de David. Imagine ça, dans un âge violent et agressif avec les guerres, avec la brutalité. Dans cette époque, on parle de David. Il est un roi avec le miséricorde. Il a donné les choses aux gens. Il a servi les gens. Il a laissé les gens de vivre quand ils peuvent facilement tuer. Il a choisi de honorer Dieu. Il a le même cœur, miséricorde. Donc, un homme de miséricorde, et on peut lire ça, Ésaïe chapitre 55, verset 3, psaume 23. Pourquoi, et on va finir avec ça, pourquoi que David était quelqu'un qui peut être suivi par la bonté et la miséricorde tous les jours de sa vie, en Psaume 23, verset 6. Pourquoi qu'il peut faire ça?
Parce qu'il sert de miséricorde. Et donc, la miséricorde va suivre son seul être. Si on sert l'agression de
discrimination, haine contre Dieu, aucun respect pour les autorités, on va récolter ça, on peut voir ça dans la société, dans nos pays, en Suisse, en France, en Angleterre, en États-Unis. Si on est comme ça, on va s'aimer la même chose. Un homme violent va être mort par la même épée. Donc, ici, David qui a semé la miséricorde dans sa vie, c'est la miséricorde qui était la marque tracée dans sa vie. Et quand il a marché et quand il a parti, qu'est-ce que la chose qui est restée avec ceux autour de lui? Quel est le souvenir de sa vie? Il est un roi, un homme, après le cœur de Dieu, un homme de miséricorde. On peut vivre la même chose. L'Église peut être la même chose. Chacun de nous, on peut vivre ça. C'est une progression de vie. C'est pas tout de suite. C'est une vie de grandir en Dieu. On va vivre de grandes choses avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ce matin et merci pour chacun de nous présents. Je présente tout l'assemblée devant toi, chaque âme. Je demande, Seigneur, que tu touches. Je demande que ta présence est avec nous tous ce matin. Merci, Seigneur. Bénis le reste de notre journée. Que ta présence est toujours avec nous. Que tu guéris les gens qui sont blessés, les gens qui ont des problèmes. Les gens qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Merci Seigneur, sois glorifié. Et bénis le reste de notre journée dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.